France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, l'histoire de Playtime, le film qui a ruiné Jacques Tati. Au début des années 60, le réalisateur français est au sommet de sa gloire. En trois films seulement, il s'est imposé comme le roi français du burlesque. Charlie Chaplin à son Charlot, Jacques Tati à son Monsieur Hulot. Un personnage qui a fait recette avec son imperméable, sa pipe, son pantalon court et sa démarche inimitable de grand dadé, marchant sur la pointe des pieds et toujours un peu dans la lune. Le réalisateur, surnommé Tatillon par son équipe, orchestre tout dans les moindres détails. Ainsi, le tournage de Playtime s'éternise et le budget explose, le plus cher de l'époque, avec la grande vadrouille. Or, ce dernier, c'est 17 millions d'entrées, un record au box-office. Alors que Playtime est un échec commercial et critique, entraînant Jacques Tati vers la faillite et plombant la suite de sa carrière. Et pourtant, aujourd'hui, ce film est considéré comme l'un des chefs-d'œuvre du cinéma. Retour sur cette aventure tatinesque. Notre invité aujourd'hui, Stéphane Goudet, maître de conférences, critique de cinéma, spécialiste de Jacques Tati et plus précisément du film Playtime, auquel il a consacré sa thèse de doctorat. Affaires sensibles, une émission de France Inter, récit documentaire Adrien Mora, rédaction chez Franck Cognard, chargé programme Rebecca de Nantes, réalisation Juliette Gou.
Fabrice Drouel. Affaires sensibles sur France Inter.
Avril 59, Monsieur Hulot alias Jacques Tati débarque aux États-Unis. Nommé pour l'Oscar du meilleur film étranger avec mon oncle, le cinéaste en profite pour faire un peu de tourisme, visiter New York notamment, avant de se rendre à Los Angeles. Il fait aussi la tournée des médias. On le présente comme le grand comique venant d'outre-Atlantique. À la télé, les téléspectateurs découvrent alors sa grande silhouette devant un présentateur qui annonce « Nous sommes très heureux de recevoir l'un des meilleurs comiques européens. Peut-être l'avez-vous vu il y a 2 ans dans son merveilleux film « Les vacances de Monsieur Hulot ». Eh bien, vous serez étonné par son nouveau film « Mon oncle » qui a gagné le prix spécial au Festival de Cannes. » Jacques Tati, le mime et l'acrobate des mots, répond au journaliste.
So here he is, the director, writer and star of my uncle, Jacques Tati. Bonsoir, Monsieur Tati.
Bonsoir, Monsieur Allen.
Monsieur Tati, you are the writer, director and star of your new picture. Isn't that an awful lot of work?
It really it is.
Well, if so, why do you do it?
Well, because nobody wants to do it.
Well, first, would you give the folks a little idea of the story?
Well, it's difficult to say about the story because lots of people find there's no story in my pictures, you see.
Il est vrai qu'il est difficile de raconter ce qui se passe dans un film de Tati, car il n'y a pas d'intrigue à proprement parler. Dans Jour de fête, sorti en 1949, on suit les péripéties d'un facteur, François, qui se lance dans une tournée acrobatique sur son vélo. Peu de dialogue, mais beaucoup de gags. Comme dans Les vacances de Monsieur Hulot, qui sort au cinéma en 1953 et qui donne naissance au célèbre personnage. Ici, on le suit dans toutes ses péripéties, à la plage, parmi les touristes. Jacques Tati, observateur de la mutation de la société française après-guerre, s'en amuse et la caricature dans ses films.
Oh, Charles, tes invités.
Ah, Pichard, je viens.
Madame Harpel.
Madame.
Monsieur Harpel.
Bonjour, madame. Monsieur.
Madame. Oh, comme ça,
c'est du plastique. Des fleurs qui se gardent.
On est fait sans tout caoutchouc.
Mon oncle, donc. Eh bien, c'est l'histoire d'un couple modèle qui vit dans une maison ultra moderne, remplie de gadgets, avec un enfant qui s'ennuie un peu. Mais heureusement, il y a l'oncle, Monsieur Hulot, incarné par Jacques Tati, spécimen maladroit de l'ancien monde qui vient enrayer la machine bien huilée de la modernité. En tout cas, le film et le talent burlesque de Tati font l'unanimité. Boris Vian déclare à propos de mon oncle. En vous présentant la musique originale, naïve et gaie de ce ravissant chef-d'œuvre, nous savons ce que nous faisons. Nous vous offrons l'illustration sonore d'un film qui durera autant que les bandes immortelles de Chaplin. Et Tati, bien plus qu'un Chaplin français. C'est un créateur original, un poète de la pellicule, un artiste aussi simple qu'il est bourré de talent. Hollywood non plus ne s'y trompe pas et honore Tati en lui offrant l'Oscar du meilleur film étranger. On demande alors au réalisateur qui il veut rencontrer. Il a le choix. Tati saisit l'occasion et demande à s'entretenir avec Buster Keaton. Et le voilà attablé avec le génie du burlesque, mais également avec d'autres immenses stars de la comédie américaine. Max Sennett, Harold Lloyd, Stan Laurel, ne manque que Hardy, et surtout Chaplin. Mais victime de la chasse aux sorcières, le plus grand cinéaste de l'avant-guerre n'a plus le droit de mettre un pied aux États-Unis depuis 1952. Impressionné par les bandes sonores de Tati, Keaton lui propose de sonoriser ses films. Bon, un projet qui ne verra jamais le jour. Tant pis. De retour à Paris, Tati est célébré comme un héros.
Jack Tati est revenu de New York, où il a ajouté de nouveaux lauriers au palmarès de mon nom. Personnage lunaire qui dresse sans en avoir l'air un bilan de la civilisation moderne, Tati n'a d'ailleurs pas fini sa carrière, puisqu'au cours d'une conférence de presse, il a annoncé que son prochain film serait Mon oncle en voyage. Souhaitons donc bon voyage aux futurs spectateurs.
Tati est honoré dans sa ville natale du PEC, dans les Yvelines, et il reçoit les félicitations du président de Gaulle en personne. Évidemment, c'est une consécration pour Jacques Tatichef, de son nom de naissance. Élève turbulent mais grand sportif, jeune, il était destiné à devenir encadreur de tableaux dans l'entreprise familiale. Mais c'est en faisant le pitre lors des troisièmes mi-temps des matchs de rugby qu'on l'incite à persévérer dans cette voie. Tati est un mime extraordinaire. Il reproduit à merveille les gestes d'un tennisman, d'un gardien de but de foot, d'un cavalier ou d'un demi-mêlée au rugby. Tati, jeune adulte pendant la crise économique du début des années 30, vit quelques temps de galère avant de se faire une place dans l'univers du music-hall. L'écrivaine Colette, qui voit l'un de ses spectacles, écrit en juin 1936 dans le Spectacle de Paris « Désormais, je crois que nulle fête, nul spectacle d'art et d'acrobatie ne pourront se passer de cet étonnant artiste qui a inventé quelque chose. Oui, quelque chose qui participe du sport, de la danse, de la satire et du tableau vivant. Et Jacques Tati, cheval et cavalier, tout Paris verra vivante sa créature fabuleuse, le centaure. » La base du travail de Jacques Tati, c'est l'observation. Il est tombé dedans quand il était petit. Et il le raconte des années plus tard à la télé.
Un bon élève ne voit le professeur que de face. Alors il le voit avec la cravate bien faite, son vêtement bien fait. Et j'ai eu la chance d'aller au coin assez souvent. Alors du coin, je sais que vous êtes l'angle du coin, vous vous apercevez que ce professeur que vous avez vu de face et qui était parfait, du coin, vous voyez qu'il a baissé un peu ses chaussettes, qu'il se gratte les bras, c'est-à-dire que vous voyez un peu l'envers du décor. Ouais. C'est donc le début de l'observation, c'est comme ça que j'ai commencé à voir qu'il y avait autre chose que des gens justement impeccables et corrects.
Pour Tati, chaque scène du quotidien est l'occasion d'observer le comportement des gens. Il adore se poser seul à une terrasse de café et regarder les passants. Il saisit au bon toutes les occasions. Un avion retardé à l'aéroport, c'est un spectacle magnifique, avec toutes les réactions en chaîne de personnes qui s'énervent et qui s'impatientent, tout comme le personnel qui doit improviser. Tati observe les policiers faire la circulation et les vacanciers partir en vacances, scrutant les voitures depuis un pont qui enjambe l'autoroute. Tous ses comportements, il les retranscrit dans ses films où il devient Monsieur Hulot, qu'il incarne à merveille. Tati est un artiste global. Il écrit, met en scène et joue dans ses films. Pour Playtime, son quatrième long métrage, il reprend son personnage. Un journaliste lui demande pourquoi, il répond « Vous savez, Hulot, c'est un personnage que j'aime bien, un personnage qui a fait ses preuves, qui a été bien accueilli à l'étranger, il est bien reçu en Amérique, il est bienvenu en Angleterre, et je n'en ai pas d'autre. » Enfin, je veux dire, c'est le mien. Mais cette fois, dans Playtime, la grande vedette sera le décor. Monumental. Tati envisage de fondre Hulot dans le dédale d'un immeuble, d'un hall d'aéroport, d'un centre commercial. Il veut laisser plus de place à de nombreux autres acteurs, quasiment tous amateurs. Dans cet extrait, il explique comment il réalise son casting.
Comment trouvez-vous vos personnages ? Je vais dans les cafés, je vais voir je vais au match de football avec les populaires. Alors je vais au milieu, puis je leur parle, puis je vais au Grand. Alors j'en vois un qui a un tiré, des petites casquettes, et puis ils sont dans le Grand, ils viennent faire un. Ah oh, ben je saurais pas jouer, moi. Ben si, si, si. Et je trouve des personnages comme ça. Moi, je crois pas que, qu'un acteur puisse tout faire, un titi, un homme d'affaires.
Au départ, Tati veut absolument tourner Playtime dans un décor naturel. Mais il se rend compte qu'il est impossible de tourner dans un terminal de l'aéroport d'Orly sans perturber le trafic aérien, évidemment. Même chose pour un supermarché qui aurait perdu beaucoup d'argent, ou un siège d'entreprise qui aurait vu son activité paralysée. Alors, avec l'aide du ministre de la Culture, André Malraux, Tati se lance dans un projet fou, construire sa ville moderne idéale. En juin 1964, sa société de production parvient à louer à la ville de Paris un terrain à Joinville dans la banlieue sud-est de la capitale. Là, le réalisateur se lance dans un grand chantier pour reproduire aéroports, supermarchés, routes, ronds-points, sièges d'entreprise et même des appartements d'habitation. C'est Tativille. 15 000 mètres carrés de terrain, 5 mois de travaux et des centaines d'ouvriers sont nécessaires pour faire de cette friche un décor digne d'un quartier d'affaires moderne. On est alors au milieu des années 60, c'est la France des Trente Glorieuses, des chantiers voient le jour partout, à l'instar du quartier d'affaires de la Défense. Oh, Tati n'entend pas dénoncer l'architecture moderne, mais pointe plutôt les dangers de l'uniformisation de nos sociétés qui s'américanisent et qui se standardisent. L'ancien monde contre le nouveau monde, c'était déjà le sujet de son film précédent, Mon oncle. Tati expose ici son raisonnement.
Alors comme les chaises des habitations se ressemblent également, vous retrouvez chez des amis les mêmes chaises qu'à l'aéroport d'Orly, les mêmes chaises à Orly qu'à New York, et on se demande bientôt pourquoi on va voyager.
Et quand on lui demande pourquoi un titre anglais, Tati répond: on range les voitures dans un parking, les ménagères vont faire leurs courses au supermarché, il y a des drugstores, le soir des nightclubs. Je n'ai pas trouvé un titre français qui correspondait à mon action. Bien. Maintenant le scénario Playtime. Simple. On ne peut plus simple. Tout se déroule sur une journée où un groupe de touristes américaines débarque à Orly. On les promène dans un Paris hyper moderne constitué de grands buildings. Mais aucune trace de la Tour Eiffel ni de Montmartre, hormis dans le reflet des portes vitrées. Parmi ce groupe de touristes, il y a Barbara qui va rencontrer Monsieur Hulot, la star des premiers films de Tati. Dans ce nouveau long métrage, le désormais célèbre personnage est complètement perdu dans ce labyrinthe de sièges d'entreprise et de centres commerciaux.
Oh, mon chéri, en tout cas, tu es des vitamines.
Mais la vraie star du film, c'est le décor, filmé en 70 mm, ce qui permet d'avoir des images avec de nombreux détails. Tati profite de ce format de pellicule pour faire des plans très composés, où plusieurs scènes se déroulent simultanément. Et pour chacune d'entre elles, il prend le temps de régler chaque détail et mime tous les gestes que les acteurs auront à effectuer avant que la caméra ne se mette à tourner. Et puis Tati veut absolument s'affranchir des contraintes économiques qui pourraient brider sa créativité artistique. Il explique à une journaliste qui visite le plateau de tournage: je mets le film avant ma vie privée et mon confort personnel, alors que, bien souvent, pour être tranquille, on signe rapidement d'autres films pour changer de voiture ou de salle de bain. Tati, lui, prend son temps. Mais parfois, c'est le temps qui le retarde. Des intempéries dévastent les décors et le tournage est retardé. Tati met en hypothèque ses biens et sa maison pour obtenir des nouveaux financements. Le budget du film augmente mois après mois. Mais le cinéaste a fait des économies considérables en n'engageant aucune vedette ou star sur son film. L'une des actrices principales est une Allemande qui n'a jamais joué. C'est l'ancienne jeune fille au père d'un couple d'amis. Avant d'arriver devant la caméra de Tati, elle était secrétaire chez Findus à Francfort. La voilà en interview.
Vous appelez comment ?
Barbara Denek.
Barbara, c'est le nom que vous portez également dans Playtime ?
Oui, c'est ça.
C'est votre premier rôle ?
Oui, c'est mon premier rôle. Je n'ai jamais joué avant.
Et vous connaissez le scénario ?
Non, je ne connais pas.
Pourquoi ?
Monsieur Tati ne veut pas qu'on le connaisse parce qu'il trouve après ce n'est plus naturel quand on joue.
Monsieur Giffard, Düsseldorf au téléphone.
Au début du film, Tout est carré, millimétré. Monsieur Hulot est perdu dans cet univers d'ailleurs. Il n'est plus le personnage principal et de nombreux clones apparaissent dans différents plans. Alors il se fond dans la foule. Petit à petit, la mécanique bien huilée dérape avec l'inauguration d'un restaurant qui tourne à la fois au fiasco et la fête improvisée. Parce que Tati, c'est d'abord la science du cadre. Il veut faire du spectateur quelqu'un d'actif et d'attentif à ce qui se passe à l'écran. Mais le regard n'est jamais guidé. On peut regarder Playtime plusieurs fois sans voir le même film. Mais Tati, c'est aussi une obsession pour le son. Il réalise tout en post-production. Il y passe des mois et des mois. Presque aucun cinéaste avant lui n'a poussé l'art du détail sonore aussi loin. En 87, dans les mardis du cinéma sur France Culture, l'ingénieur du son Jacques Maumont raconte le tournage et surtout le montage son de Playtime.
Monsieur !
Sur Playtime, je suis resté plus d'un an, un an et trois mois, uniquement pour le son. C'est-à-dire, évidemment, comme on avait ce monstre d'image en 70 mm qui durait je ne sais pas combien d'heures et qu'il fallait illustrer, on a tout enregistré les sons un par un. Bien qu'on a passé des nuits à enregistrer les voitures une par une, on allait la nuit à Rueil avec des voitures neuves qu'on allait chercher chez Simca et tout ça.
Tati et Jacques Maumont partent en chasse de tous les sons et le résultat est exceptionnel. Dans l'ouvrage de Stéphane Goudet, Eugène Roman, chef décorateur sur Playtime, parle également du plateau de tournage hors norme. Il n'existait aucun plateau comme celui-là à l'époque. On avait des façades de 15 mètres de haut, tout en plexiglas. On déplaçait les immeubles montés sur roulettes. Vous savez, il faut se rendre compte qu'on a travaillé pendant 2 ans complets sur Playtime. Ça a été long. Sur ce film, il y a eu 1000 personnes. Il y a des gens qui sont morts, certains se sont mariés, d'autres ont divorcé. Mais Tati, lui, n'a pas changé. Il a raison, le jeune Roman. Tati n'a pas changé. Mais sa ville studio, elle, est vouée à la destruction. Le réalisateur rêvait d'en faire un plateau pérenne avec une école de cinéma. Malraux lui avait promis de l'aider. Mais finalement, la mairie de Paris récupère le terrain pour en faire un échangeur d'autoroutes. La modernité a eu raison du cinéaste qui, lors de la destruction des décors, jettera l'un des exemplaires de son scénario sous un immeuble. Après 3 ans de travail acharné, plus de 300 jours cumulés de tournage et de nombreuses rallonges financières, Jacques Tati vient quasiment à bout de Playtime, toujours le nez dans les dernières versions du montage. Quelque temps avant l'avant-première, il explique à une journaliste que ses films n'ont jamais eu de construction dramatique. Et il les compare à certains films de Chaplin où l'intrigue se résume en 2 phrases. Le burlesque, selon Tati, n'a pas à s'embarrasser d'une histoire complexe. Mais il confie aussi sa grande fatigue après un tournage aussi fastidieux.
Et dans l'avenir, que va être le prochain Tati, le prochain film de Tati?
Bon, vous savez, je crois que je ne sais pas si j'en ferai un d'ailleurs. Non.
Vous non. Imaginez bien qu'on vous fera un autre film et
non,
parce que vous retrouvera votre personnage.
Non, je ne crois pas, non, parce que là, ça a été un petit peu trop dur. Bon, je n'avais qu'à pas entreprendre ce film, mais j'ai voulu le faire, je l'ai fait.
Vous n'en regrettez rien?
À moi, personnellement, pas du tout. J'ai fait ce que je devais faire, j'ai fait ce que je voulais faire.
Et vous l'avez fait avec joie?
Oui, je crois que si j'ai une petite satisfaction de gens qui m'envoient une petite carte en me disant « Bon, ben, je suis content, ça me suffira. »
Autrefois, pour faire sa cour, on parlait d'amour. Pour mieux prouver son ardeur, on offrait son cœur. Maintenant, c'est plus pareil. Ça change, ça change. Pour séduire le cher ange, on lui glisse à l'oreille. Ah, Gudule, viens m'embrasser et je te donnerai un frigidaire, un joli scooter, un atomixer et du dalopio, une cuisinière avec un four en verre, des tas de couverts et des pelles à gâteaux. Une tourniquette pour faire la vinaigrette, un bel aérateur pour bouffer les odeurs, des draps qui chauffent, un pistolet à gaufre, un avion pour 2, et nous serons heureux. Autrefois, s'il arrivait que l'on se querelle, l'air lugubre, on s'en allait en laissant la vaisselle. Maintenant, que voulez-vous ? La vie est si chère. On dit rentre chez ta mère et on se garde tout. Ah, Gudule, excuse-toi ou je reprends tout ça. Mon frigidaire, mon armoire à cuillère, mon évier en fer et mon poêle à mazout, mon cire godasse, mon repas solimace, mon tabouret à glace et mon chasse-filou, la tourniquette à faire la vinaigrette, le ratatine ordure et le coupe-friture. Et si la belle se montre encore rebelle, on l'affiche dehors pour confier son sort au frigidaire, à l'efface poussière, à la cuisinière, au lit qui est toujours fait, au chauve-savate, au canon à patates, à l'éventre tomate, à l'écorche poulet. Mais très très vite, on reçoit la visite d'une tendre petite qui vous offre son cœur. Alors on cède, car il faut qu'on s'entraide. Et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois. Et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois. Et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois.
Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, Playtime de Jacques Tati.
Affaires Sensibles, Fabrice Drouel.
« 17 décembre 1967, Paris, Cinéma L'Empire. Jour d'avant-première pour Playtime de Jacques Tati. 8 ans se sont écoulés depuis mon oncle, une éternité. Alors les attentes sont énormes pour les nouvelles aventures de Monsieur Hulot. Mais la salle est déçue. Oui, beaucoup trouvent le film trop lent, trop long. Et puis un entracte pour un film comique, quelle idée. Et puis l'histoire, ben il n'y en a pas. Et Hulot, il est où ? Il disparaît presque dans ces images tournées en 70 mm où de très nombreux personnages apparaissent à l'écran. Tati, qui a travaillé d'arrache-pied pendant de longues années, encaisse le choc. Alors, il va retourner au travail de montage, ajuster certaines scènes. Au lendemain de l'avant-première, le cinéaste François Truffaut lui écrit une lettre. Il lui dit « Playtime ne ressemble à rien de ce qui existe déjà au cinéma. Aucun film n'est cadré ou mixé comme celui-là. C'est un film qui vient d'une autre planète, où l'on tourne les films différemment. Playtime, c'est peut-être l'Europe de 1968, filmée par le premier cinéaste martien. Il voit ce qu'on ne voit plus, il entend ce qu'on n'entend plus, et il filme autrement que nous. Alors, film en avance sur son temps, ou long métrage nostalgique et réactionnaire. Dans Le Masque et la Plume du 20 janvier 68, Robert Benayoum livre une critique sévère de Playtime qu'il juge ennuyeux et démagogue.
Oui, alors, Tati, enfin moi je me souviens toujours tout de même de Jours de Fête et de Hulot comme des choses vraiment extrêmement drôles, extrêmement nouvelles, extrêmement fraîches. À partir de Mon Oncle, je trouve que Tati est tombée dans une espèce de vulgarité. Alors là, nous sommes dans la vulgarité française caricaturale. Alors, je crois d'abord qu'on ne peut pas être de ce temps et de ce monde si on ne sait pas comprendre son temps, justement, et qu'il y a quelque chose d'un peu réactionnaire dans cette manière de vouloir justement regretter le bon vieux temps. Et alors, c'est lié à une espèce de démagogie qui consiste justement à faire arriver là-dedans, je parle là de Playtime, d'ailleurs aussi un peu Mon Oncle, faire arriver des Américains, n'est-ce pas, qui sont le symbole justement de tout ce qui est vulgaire, de tout ce qui est brutal, de tout ce qui est laid, et puis finalement de les faire se réunir à la fin avec une démagogie vraiment assez scandaleuse, je trouve.
Sur Playtime, chacun a son avis, mais tous s'accordent sur la thématique du film, la critique et l'analyse de la modernité. L'écrivain italien Alberto Moravi a écrit « Le film, au fond, est fondé sur deux seuls thèmes ou trouvailles. Dans la première partie, Tati erre dans les salles, les couloirs, les ascenseurs, les bureaux, les stands et les expositions d'un gratte-ciel centre commercial dans lequel tout se veut fonctionnel et efficace. Dans la deuxième partie, il se trouve entraîné par hasard dans l'inauguration d'un restaurant de luxe où tout est inefficace et non fonctionnel. En d'autres termes, nous avons le monde moderne avec ses deux seuls visages, l'efficacité et l'inefficacité. Il est certain que Playtime n'est pas aussi hilarant que le phénomène Grande Vadrouille, sorti quelques mois auparavant. Et puis, Monsieur Hulot, qui faisait le succès populaire de ses deux derniers films, est presque fantomatique. Plus de deux mois plus tard, Jacques Tati est invité par Michel Pollack dans Le Masque et la Plume du 30 mars 68, où il explique qu'il a volontairement mis M. Hulot de côté pour certains gags et laissé la place à d'autres acteurs. Il savait que cela allait dérouter le public, mais il voulait innover.
Je crois que le public attend toujours, dans le fond, le même film. Moi, vous savez que j'ai une liberté artistique qui est complète, que je la défends, et je la défends en pensant aussi à la nouvelle génération. Parce que si nous ne défendons pas cette liberté artistique, je crois que les jeunes cinéastes seront dans l'obligation de faire et de refaire les films que l'on a déjà faits. Bon. Alors évidemment, il y a peut-être des fautes d'orthographe, j'en suis fier. Et puis, le temps se charge de remettre beaucoup de choses au point. Un film vieillit bien ou vieillit mal.
Quand on lui parle du budget de son film, Tati répond que cela n'a aucun sens de juger une œuvre par le prix qu'elle a coûté, que cela ne regarde pas le public et que, de toute manière, malgré les coûts de tournage qui ont explosé, Playtime, au final, n'a pas coûté plus cher que La Grande Vadrouille. Ce qui est certain, c'est qu'il a rapporté beaucoup moins. Dans la même émission, Tati défend son film avec ardeur. Il explique notamment qu'il a misé sur l'intelligence du public et qu'il a volontairement écarté les grosses ficelles comiques. Dans tous les cas, il estime qu'il est un soutien majeur de l'industrie du cinéma français.
J'ai employé énormément de techniciens. Nous avons donné du travail à beaucoup de techniciens, ce que les autres ne font pas, je m'excuse. Nous avons employé beaucoup d'acteurs professionnels. Nous avons donné du travail à beaucoup de monde. Nous avons essayé, sur un plan technique, de faire que nous avions les possibilités en France de faire un film d'une valeur de qualité de photo et qualité de son qui existe et qui existe à l'Empire, je m'excuse. Eh bien, les Américains trouvent que nous avons fait un effort et que le film, de ce côté-là, est bien fait. J'ai défendu une industrie, un métier que je fais et j'ai pas de honte à dire que je me suis donné beaucoup de mal et à mon âge, passer 5 ans pour faire ça, eh bien je crois que je devais le faire et je suis ravi de l'avoir fait.
Ça, on vous approuve en tout cas.
Oui, mais en France, les salles ne sont pas adaptées aux 70 mm. Tati remonte plusieurs fois le film, le raccourcit, mais rien n'y fait. Contrairement au succès de ses trois premiers longs-métrages qui avaient séduit 7, 6 et 5 millions de spectateurs en France et près de 3 millions en Allemagne, Playtime, lui, plafonne à 1 200 000 entrées. Ça s'appelle un échec. Tati est ruiné, ses films sont mis sous séquestre et sa maison hypothéquée. Au fond du trou, il se lance alors dans un nouveau projet avec Trafic. Mais il doit voir ses ambitions à la baisse. Le budget est beaucoup plus restreint avec de nombreuses scènes en décor naturel. Nouvel échec commercial avec moins d'un million d'entrées. Ce sera le dernier voyage de Monsieur Hulot. C'est finalement la télé suédoise qui permet au réalisateur de revenir à ses premières amours en alliant spectacle vivant et cinéma dans Parade, où il reprend ses célèbres numéros de mime des années 30, le boxeur, le gardien de but ou encore le cavalier. Dans l'émission Radioscopie du 15 avril 1975, diffusée sur France Inter, François Truffaut revient sur la carrière de Jacques Tati au micro de Jacques Chancel.
Je suis allé à la première de Playtime en me disant c'est un événement fantastique, ce, quand même, ce type qui a mis 10 ans à faire ce film. Et c'est une grande cabine là-bas à l'Empire. Vous savez, à la fin du film, je me suis retourné, je l'ai vu en bras de chemise dans la cabine, la haute projection. C'était vraiment bouleversant. Et en même temps, c'était très triste parce que le film était trop long. Il y avait eu un entracte au milieu, ce qui était très mauvais pour un film comique. Puis après, le film a été réduit de 20 minutes dans les 15 jours suivants, puis encore de 20 minutes. Je l'ai vu d'ailleurs à chaque étape, et chaque fois, je voyais une copie différente, parce qu'il continuait à y travailler, même pour les sorties en province et tout ça. C'était un très beau film. Simplement, effectivement, c'est le cas, si vous voulez, de quelqu'un qui a eu un moment, un rendez-vous avec le public, et qui ne l'a plus parce que, entre-temps, surtout dans le cinéma comique, les modes comptent beaucoup. Les gens se sont intéressés à autre chose, à De Funès, à Pierre Richard, à je ne sais quoi, quelquefois des choses moins abouties que les siennes.
En 1977, Jacques Tati récupère les droits sur ses premiers films qui avaient été mis sous séquestre après l'échec de Playtime. Avec l'aide d'un promoteur, Nino Molossena del Monaco, il peut ressortir ses trois premiers longs-métrages en salle, Jour de fête, Les vacances de Monsieur Hulot et Mon oncle. C'est à cette occasion qu'il est invité de Michel Drucker dans l'émission Les rendez-vous du dimanche, sur TF1 le 20 février 77. Jacques Tati revient sur les déboires qui ont suivi l'échec commercial de Playtime. Il rappelle que le décor a pesé très lourd dans le budget. Et il dit qu'il aurait mieux valu attendre 5 ans pour que le quartier de la Défense soit construit. Ah oui, le film aurait coûté beaucoup moins cher en tournant là-bas. Il revient enfin sur la réception de son Playtime à l'époque.
C'est un film qui, sur un plan artistique, a un peu dérouté les spectateurs.
Toujours est-il que ce film, ayant posé des problèmes financiers au réalisateur, à son producteur, et vous étiez directement concerné, vous ont donc obligé à rembourser des dettes pendant des années et vous n'avez pas pu travailler. C'est-à-dire que le créateur que vous étiez a eu les problèmes d'un homme d'affaires.
Voilà, rassurez-vous, les dettes ne sont pas encore...
C'est pas fini.
Non, non, moi je ne risque pas que mon comptable parte avec 800 millions. Ça, c'est sûr. Je peux vous garantir que je dors tranquille sur ce point.
En 1977, il reçoit un César pour l'ensemble de son œuvre et se lance dans un nouveau projet, Confusion. En 80, dans Les Yeux Verts, Marguerite Duras écrit à propos de Tati. Je l'adore absolument. Je crois que c'est peut-être le plus grand cinéaste du monde. Playtime, c'est gigantesque. Le plus grand film qui ait jamais été tourné sur les temps modernes. Jacques Tati meurt le 4 novembre 1982, à l'âge de 75 ans, des suites d'une embolie pulmonaire. Philippe Labro écrit dans Paris Match. Adieu, monsieur Hulot. On le pleure mort, il aurait fallu l'aider vivant. Jacques Tati n'aura pas eu le temps de réaliser son dernier projet. Il quitte la scène avec 6 longs métrages. Aujourd'hui, Playtime est considéré comme un chef-d'œuvre du cinéma. 20 ans après sa mort, le Festival de Cannes lui rend hommage en projetant les films de Tati sur une plage de sable. Une version de Playtime restaurée est également diffusée. David Lynch, le président du jury, déclare « J'adore Jacques Tati, je l'adore pour son talent, pour sa conception des films, mais surtout pour la tendresse de son cœur et son amour de l'humanité. » Terminons sur cette anecdote. Le 12 février 1965, le général de Gaulle reçoit à l'Élysée des personnalités du monde du spectacle. Pour éviter toute confusion, son aide de camp s'arrange pour dire à voix haute le nom de l'invité et un mot permettant au général de Gaulle de le situer. Ainsi, lorsque Jacques Tati s'approche, l'aide de camp le nomme, avant d'ajouter le titre du film, ça donne à peu près ceci. « Mon général, Jacques Tati, mon oncle. » Alors, le général s'adresse au cinéaste et lui dit, concernant son aide de camp, « Je suis extrêmement satisfait des services de votre neveu. »
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, Playtime de Jacques Tati. Notre invité, Stéphane Goudet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence, critique de cinéma, spécialiste de Jacques Tati et plus précisément du film Playtime, auquel vous avez consacré votre thèse de doctorat. D'ailleurs, pourquoi ce film-là? Pourquoi pas Mon oncle ou Les vacances de Monsieur Hulot?
D'abord parce qu'il était à l'époque assez peu connu, ensuite parce que les conditions dans lesquelles je l'ai découvert étaient littéralement extraordinaires. C'était à l'Opéra Bastille, dans le cadre d'un festival qui s'appelait Ciné-Mémoire. J'étais assis par hasard derrière Costa Gavras et Martin Scorsese qui étaient venus le découvrir sur grand écran en 70 mm. Et j'ai vécu ce soir-là un choc absolu. Je suis sorti de la salle en disant « Je change tout, j'arrête de travailler sur le cinéma iranien, je veux travailler sur Jacques Tati ». J'ai appelé un ami qui dirigeait un cinéma qui s'appelait Jacques Tati à Tremblay en France, qui m'a dit « Moi, je connais sa fille, elle nous a donné l'autorisation de reprendre ce nom pour la salle. Si tu veux, je te la présente ». Je l'ai présenté et en sortant de ce déjeuner, elle m'a dit « Mais vous voulez voir les archives de mon père ?» Et tout a commencé comme ça.
Playtime est ressorti en 2002.
Oui.
Vous y étiez, on a parlé de David Lynch.
J'y étais parmi les invités parce que j'avais ramené des copies de versions inédites de Playtime, parmi les plus longues, qui n'atteignaient pas le montage initial, mais qui rajoutaient une douzaine de minutes à la version qu'on connaissait alors. Et donc j'étais effectivement assis près de Lynch et je l'ai vu pleurer à la sortie de la salle. Et des années plus tard, j'ai eu la chance de faire un entretien avec lui et je lui ai demandé... Qu'est-ce qui fait pleurer dans Playtime? C'est un film, le film le moins sentimental du monde en apparence. Et il m'a expliqué, et je continue à trouver ça extrêmement émouvant, que ce qui l'a fait pleurer, c'est qu'il était là avec son fils, et qu'en fait, d'avoir partagé ce moment-là avec son fils, or la question de la transmission est décisive chez Tati, c'était pour lui une espèce de sommet absolu de ce qu'on pouvait partager au cinéma, compte tenu de ce que Tati avait investi comme ambition, comme idée du cinéma, jusqu'à évidemment cette ruine que le sujet vient d'évoquer.
Comment peut-on caractériser le style de Jacques Tati ?
Mais ce qui est passionnant, c'est qu'il est à la fois formidablement populaire dans son ambition de faire rire et formidablement ambitieux par son invention de forme. Mmh. Tati, c'est 19 millions de spectateurs sur l'ensemble de ses films. C'est colossal, c'est vraiment quelqu'un que tout le monde allait voir, quelle que soit sa condition sociale. Or, cette ambition de réunir toutes les classes sociales, elle est au cœur de son cinéma, y compris de Playtime. La dernière partie au Royal Garden, c'est ça. Hein, c'est on abolit les frontières, on abolit le tri sélectif à l'entrée d'une boîte restaurant, et tout à coup, tout le monde s'y retrouve. Et le plaisir de Tati, son ambition y compris politique, c'est celle-là. C'est de faire en sorte qu'il n'y ait plus de classe sociale, pas dans une vision révolutionnaire et gauchiste, c'est pas du tout son optique politique, mais en revanche, de faire en sorte que tout le monde retrouve sa spontanéité, son naturel, etc. Et donc, il y a ce côté extraordinairement fédérateur qui lui vient entre autres de sa pratique du rugby, puisque au Racing Club de France, il y avait cette mixité sociale qu'il aimait beaucoup. Et puis en même temps, il y a ce désir d'expérimenter des formes nouvelles, ce qui se voit évidemment dans sa carrière quand il essaye de tourner le premier film en couleur avec Jour de fête, ou qu'il fait le premier film français ambitieux en 70 mm avec Playtime, avant de faire le premier film tourné en vidéo avec Parade et la télévision suédoise. Donc c'est cette espèce d'ambition folle de tenir le cinéma par les deux bouts, d'être vraiment du côté du peuple et d'être vraiment du côté de la recherche artistique dans le prolongement des peintres qu'accueillait son grand-père, puisque la légende familiale veut que son grand-père ait refusé un tableau de Van Gogh en paiement de cadres que le grand-père fabriquait.
On peut parler aussi de filiation cinématographique. Vous parliez de peinture, mais moi je pense à Charlie Chaplin, évidemment. Buster Keaton.
Alors oui, Keaton, c'est évident. Il y a d'ailleurs un ou deux hommages, notamment dans Jour de fête. Chaplin, c'est plus compliqué. Vous citiez tout à l'heure les déjeuners qui ont lieu après les Césars, parce qu'en fait, les quatre grands burlesques n'ont pas pu être réunis le même jour, donc il y en a eu deux de suite. En revanche, Chaplin n'était pas là, il était effectivement en Suisse. Mais il est allé voir Chaplin, sauf qu'il l'a caché, il est allé le voir en secret, c'est sa fille qui me l'a révélé un jour. Et ça ne s'est pas très bien passé. Il y avait, vis-à-vis de Chaplin, l'idée vraiment de tuer le père, enfin de s'affirmer contre cette figure-là écrasante, et donc de marquer sa différence. Et précisément sur cette question des classes sociales, il avait été très gêné de voir que Chaplin collectionnait les voitures de luxe alors qu'il avait fait sa fortune sur une figure de mendiant, et ça pour lui c'était extraordinairement gênant, et tout à coup l'identification était beaucoup plus forte avec Keaton. Il disait d'ailleurs: je ne vois pas pourquoi je mourrais riche, Buster Keaton est mort pauvre.
Oui, comme Laurel et Hardy, je crois.
Oui, absolument.
Qu'est-ce qu'un homme de son temps ? Ça, c'est une question un peu absurde, parce que comment peut-on être un homme ou une femme d'un autre temps ? Sauf peut-être pour Jacques Tati. C'est quoi son approche de la modernité ? Est-ce que c'est repoussoir ? Je ne crois pas que ce soit que repoussoir.
Non, elle est complexe, et je pense qu'on la voit aujourd'hui très différemment. C'est-à-dire que le succès de Playtime en 2002, qui fait 200 000 entrées, ce qui est absolument fou pour un film de patrimoine, ça n'arrive jamais, hélas, raconte quelque chose du fait qu'il était en réalité effectivement désynchronisé. La question de la synchronisation est très important dans son œuvre, mais qu'en fait on a cru à l'époque qu'il était réactionnaire alors qu'il était vraiment visionnaire. Aujourd'hui encore, Playtime parle du monde contemporain et du monde à venir, notamment parce que c'est un des premiers films à parler de la mondialisation, très clairement. L'uniformisation qu'on voit à l'œuvre dans Playtime, c'est bâtiments qui se répètent partout, qui
les mêmes enseignes partout dans le monde.
Absolument, c'est ce qu'on vit au quotidien quand on se déplace à l'autre bout du monde en prenant l'avion, et le film commence à Orly, pour se rendre compte qu'on voit la même rue commerciale que celle qu'on a quittée à Paris. Et c'est exactement le projet de Tati. Lui résumait son film comme ça, en disant: qu'est-ce qui fait que des touristes vont tout à coup traverser la planète pour en réalité être confrontés au style international qui est le même qui désormais détruit nos villes en France. Donc il y a à la fois une révolte contre cette figure de la modernité incarnée par l'architecture, et en même temps il y a évidemment une admiration de cette beauté plastique. Il disait, jeune roman que vous citiez dans le sujet, qu'il voulait la plus belle ville qu'il soit. Et il y a une dimension plastique, il y a un plaisir formel et abstrait dans le film qui se voit là aussi et qui lui donne, là encore, une longueur d'avance.
Et il y a une passion pour les comportements collectifs, parce que ces films montrent des comportements collectifs plus que des héros individuels.
Oui, alors c'est tout le paradoxe, c'est-à-dire qu'à la fois, il y a une dimension collective et en même temps, son objet, c'est de défendre l'individu. Il le disait dans tous les entretiens.
À travers le personnage, justement, de M. Hulot, de Tati lui-même.
Mais non, parce que le personnage de M. Hulot, en réalité, l'agaçait, et donc dès Playtime, en fait. Il voulait s'en débarrasser. Quand D'accord. il le reprend pour trafic, c'est à son corps défendant. Mm. Parce qu'on lui serine que si Playtime a été un échec, c'est parce qu'on ne voyait pas assez M. Hulot. En fait, il veut s'en détacher, et ses collaborateurs le disent. En fait, déjà sur Playtime, il est de moins en moins acteur et de plus en plus metteur en scène. Ce qui l'intéresse, c'est de montrer comment ce personnage se dissout, parce qu'en réalité, tout le monde peut faire rire. Mm. L'une de ses grandes idées, c'est la démocratie du gag. C'est-à-dire de faire en sorte d'observer dans le réel que tout le monde peut être drôle, tout le monde peut être ridicule, qu'il n'y a pas le comique de service, expression qu'il détestait. Et donc, l'enjeu, c'est de valoriser la puissance comique de l'individu. L'enjeu, c'est aussi de former le regard. Il disait, mon cinéma est une école du regard. Il s'agit d'apprendre aux gens, à la sortie de Playtime, que dans le monde, il y a du comique partout.
Et qu'est-ce qui vous touche finalement le plus dans l'œuvre de Tati ?
Tout. C'est-à-dire, moi j'aime son comique, vraiment, il me fait beaucoup rire, a fortiori en salle. Hein. Playtime, ça se voit en salle de cinéma. Ils vont d'ailleurs, les films de Tati vont ressortir en 2026, donc c'est là qu'il faudra les voir. Mmh. Mais aussi sa mélancolie, mais aussi la solitude du personnage, mais son rapport aux enfants plutôt qu'au monde adulte. Moi, tout a fini par me parler, et au gré des âges, ma hiérarchie de mes coups de cœur de Tati évolue. C'est-à-dire que je n'aime pas les mêmes films aujourd'hui qu'à 20 ans, mmh. même si Playtime reste pour moi vraiment en termes d'ambition et de gestes artistiques, probablement le sommet de son œuvre.
Et pourquoi ?
Parce que il se fonde fondamentalement sur la liberté du spectateur, et c'est ça que j'aime beaucoup dans son geste. Mmh. La séquence des appartements vitrines, où nous sommes coupés du son de ce que racontent les gens à l'intérieur de ces appartements, qui en réalité sont totalement exhibitionnistes, puisqu'ils donnent leur vie intime à voir au public, et où du coup le spectateur est obligé de faire le lien entre ces petites cases des appartements, et donc de se raconter lui-même des histoires pour comprendre ce qui se joue et pourquoi il y a des effets reflets entre les appartements. Pour moi, ça, c'est un sommet de générosité dans le rapport au spectateur. C'est-à-dire, non seulement c'est drôle, c'est formidablement inventif, mais tout à coup, on me dit tu regardes ce que tu veux. Et c'est exactement ça que voulait Tati, c'est pour ça qu'il a tourné en 70 mm. C'est pour faire en sorte que chaque spectateur fasse son propre film à l'intérieur de cet écrin de liberté qu'est l'écran.
France Inter. Affaires sensibles.
Stéphane Goudet, critique cinéma, grand spécialiste de Tati en général et de Playtime en particulier. Si je vous dis Jacques Tati, Tatillon, ça vous sied ?
Bah, j'ai rencontré beaucoup de ses collaborateurs, une quinzaine, dont ceux qui ont témoigné dans le sujet. Et oui, évidemment, enfin, d'ailleurs, c'est marrant de réentendre son ingénieur du son, Jacques Momont, parce que moi, quand je suis allé le voir, il m'a dit, écoutez, moi, j'ai travaillé avec Orson Welles, Jean-Luc Godard, Alain René, Jacques Demy, il y a un cinéaste dont je veux plus entendre parler, c'est Jacques Tati. Je lui dis, mais bah, je suis là pour ça, en fait. Et il me dit, mais non, vraiment, c'était l'enfer. Parce que Tati avait une méthode de travail qui était folle, qui est effectivement impossible à reproduire aujourd'hui, qui est qu'il fallait qu'il expérimente pour savoir quel était son avis. Et donc, il demandait, en particulier, là, sur la question du son, à écouter pour pouvoir ensuite trancher et décider ce qui était bon ou pas bon. On fonctionne pas comme ça. Enfin, ça donne effectivement un an de montage son et mixage. Ça n'existe pas. C'est 3 ans de tournage sur 3 ans, il y a eu plus de 365 jours de tournage réel.
Chez Kubrick, peut-être, ça existe.
Voilà, c'est ça. C'est ce type d'obsessionnel absolu. Mmh. Et effectivement, pour les collaborateurs, c'est très, très difficile. Il y en a beaucoup qui ont quitté le tournage parce qu'ils avaient envie d'aller sur un autre projet, mais aussi parce qu'ils se disaient qu'ils n'en verraient jamais le bout à cause de ces destructions par la météo, à cause de l'indécision de Tati. Enfin, on dit que sur certaines périodes, il y avait 30 secondes utiles par jour de tournage. C'est une folie totale. Donc oui, évidemment qu'il est tatillon, évidemment que ça prend beaucoup de temps de répéter avec chacun des figurants dans le cadre pour pouvoir faire sa mise en place, et en même temps, ça donne effectivement un cinéma incroyablement puissant, riche, dense et drôle.
La construction du décor, notamment, c'est monumental, c'est inédit dans le cinéma français, ce Tativille.
Oui, c'est inédit. Encore une fois, ce qui est fou, c'est que ce soit imprévu. C'est-à-dire qu'il se soit réellement dit au départ, on va aller filmer dans les lieux réels. Enfin, comment est-ce qu'on peut penser qu'on va filmer à Orly et contrôler quoi que ce soit ? Orly est récent, hein, ça date de 61. Et donc là, Orly est tout neuf. Et Tati ne s'était pas dit, mais au fait, je ne vais pas pouvoir faire en sorte qu'on ne décolle pas dans mon cadre. Or, évidemment, il y a des avions qui décollent. Évidemment, il y a des bus bleus, par exemple, d'Air France qui rentrent à tout moment. Or, Tati veut que son début de film soit absolument sans couleur, et dès qu'il y a un bus qui apparaît dans le champ, il hurle. C'est compliqué.
Eh oui, Est-ce qu'il y a un avant et un après Playtime ? Est-ce qu'on peut dire que l'échec commercial de Playtime a mis un terme à sa carrière ? Ou c'était le début de la fin ?
Alors non, ça n'a pas mis un terme puisqu'il y a des films après.
C'est pour ça que j'ai dit début de la fin.
Je ne crois pas qu'on puisse dire ça. En revanche, ça l'a brisé humainement. C'est-à-dire que, et ça s'entendait dans ses prises de position successives. Il est miné, en fait, par cet échec et par la difficulté d'aller au bout de ce projet. Donc ça, il y a une amertume qui pointe chez lui et qui va continuer à se répandre parce que Trafic sera aussi un relatif échec. Cela dit, on a aussi un tout petit peu forcé le trait sur cet échec, malgré tout, mais parce qu'on écrit souvent plus la légende que la réalité. C'est pas un bide total, Playtime. C'est-à-dire que faire 1,2 million de spectateurs...
C'est pas un flop, c'est juste un échec par rapport à ce qu'il faisait avant.
Et ça, c'est pas sûr de le rappeler. C'est-à-dire qu'il doit être autour de la 40e place des films les plus vus dans cette année 67-68. C'est pas dérisoire. En revanche, les enjeux financiers étaient tels. Ça coûte, j'ai regardé, autour de 20-22 millions d'euros actuels. Évidemment que ça ne rentabilise pas les frais et que ce qu'il a engagé lui, c'est un très mauvais producteur. Et donc les risques financiers qu'il a pris comme auteur, là, n'avaient strictement aucun sens compte tenu des ambitions du projet et du risque de le faire en 70 mm, ce qui lui a interdit une carrière américaine, alors qu'il disait clairement que c'était son film le plus ambitieux parce qu'il avait vocation à fonctionner sur le territoire d'origine du problème, c'est-à-dire les États-Unis.
Comment était-il considéré par le milieu du cinéma, notamment par les cinéastes et aussi par ceux de la Nouvelle Vague ? C'est intéressant de savoir quel regard ces gens-là portaient sur Hulot, qui est un original, qui n'est pas le cinéma de papa.
Ouais. Alors, c'est compliqué. C'est à la fois un oncle, comme Bresson, et donc il y a une familiarité. Godard dira beaucoup de bien de Tati, il va appeler un film « Soigne ta droite », alors que Tati a fait « Soigne ton gauche » avec René Clément. Et le plus compliqué et le plus passionnant, c'est Truffaut, justement, que vous avez fait entendre tout à l'heure, parce que Truffaut va adorer Les Vacances de Monsieur Hulot, comme son père adoptif, André Bazin, qui va faire le plus beau texte jamais écrit sur Tati, qu'on peut lire dans Qu'est-ce que le cinéma. Il ne va pas aimer mon oncle, et il va l'écrire dans un texte extraordinairement sévère. Et quand il écrit au lendemain de l'avant-première de Playtime à Tati, il s'excuse des mots qui ont pu blesser Jacques Tati dans ce texte devenu fameux contre mon oncle et son univers concentrationnaire qui gèle le rire. Donc il y a cette espèce de rapport compliqué, et en même temps il y a une admiration pour cette ambition folle, au point que dans Domicile conjugal, là il y aura un vrai hommage à Jacques Tati. Il lui demandera de jouer le personnage de Monsieur Hulot sur un quai de métro de passage pour exaucer le vœu de Tati qui disait « J'adorerais que mon personnage vienne peupler le temps d'un plan d'autres films que les miens ». Tati va refuser en envoyant sa doublure et l'un de ses amis qui fera cette figuration à sa place.
Tati a-t-il des héritiers aujourd'hui dans le cinéma ?
Alors, oui, enfin, j'ai envie de dire oui, y compris pour avoir rencontré beaucoup des gens qu'il admire profondément dans le cinéma international. Évidemment, on pense spontanément à Wes Anderson. Dans The French Dispatch, il y a la reprise de la silhouette de la maison de mon oncle, de Monsieur Hulot dans mon oncle. On pense à Elia Souleymane, par exemple, qui dit d'ailleurs qu'on lui a cité Tati alors qu'il n'avait jamais vu aucun film, mais que depuis, il les a vus et qu'il les adore. On pense à Aki Kaurismäki. On pense à Paul Thomas Anderson, même, qui ne cache pas son admiration. Et puis, très récemment, Francis Ford Coppola a cité Tati comme une espèce d'emblème pour l'échec de Playtime en disant « Voilà, on n'a pas reconnu les mérites de Mégalopolis, mais vous verrez qu'un jour, on reconnaîtra mon film pour ses valeurs, comme on a reconnu à contre-temps le génie de Tati dans Playtime. »
Vous n'avez pas cité de cinéaste français dans votre liste.
Non, mais j'aurais pu, c'est-à-dire qu'Olivier Assayas, Bruno Podalides, Michel Gondry sont effectivement des fans absolus de Tati, ils le citent volontiers, y compris parfois dans leurs films.
Toute dernière chose, si vous aviez un conseil à donner pour une porte d'entrée du spectateur qui ne connaît pas beaucoup Tati, quel film vous lui conseillez ?
C'est une bonne question, ça dépend de l'âge de l'auditeur. C'est-à-dire que pour les tout-petits, moi je recommande quand même Jour de fête, qui est sur un plan d'histoire du burlesque, sont plus immédiats et sont plus purs. Pour une expérience cinématographique unique en salle, je recommande ou Les Vacances de Monsieur Hulot ou Playtime, qui reste quand même ses sommets à mes yeux.
Merci infiniment Stéphane Goudet.
Merci à vous, au revoir.
C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, Playtime de Jacques Tati. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Maxime Goudard.